This feature has been brought to you by Slot Foundation, which needs your support to continue projects like these. Information on this recording and access to other recordings is available online at slot.org.
Merci. Je suis en train de faire un essai de micro. Hein. Vous m'entendez dire merci, là? Très bien. Évidemment, je suis très touchée par ce qu'a dit Jean-Michel, beaucoup trop pour en dire quoi que ce soit. Je vais me servir de la bonté et de la mémoire qu'il a rendue au présent à l'instant pour rendre hommage avec vous à l'art en général. Je dois dire ravie d'être ici. Je trouve que la Maison Rouge est un très beau lieu qui est un peu jumeau de la Slot Foundation que Jean-Michel Osvaldo qui est là et Aaron qui est l'Ariel de ce lieu anime de manière tout à fait admirable à Philadelphie où j'ai eu la grande chance donc de participer avec eux à un combat un peu invisible, celui qui fait que se rejoignent les forces de la création des arts visuels, où je suis une étrangère, mais une étrangère accueillie, et puis ce que les auteurs peuvent apporter de manière un peu intimidée et aveugle chez les voyants, mais d'une manière dont je pense qu'elle dit l'urgence des alliances. Voilà. Et puisque nous avions l'intention de célébrer ces croisements et ces alliances, et j'ai proposé de faire partager un texte que je viens d'écrire sur Nancy Spero, qui est une grande artiste new-yorkaise et qui, vous allez le voir, puisque avec Aaron nous avons préparé un ensemble d'images qui vont accompagner ce que je dis, en fait, c'est-à-dire ce que je dis accompagne ces images. Vous verrez que c'est quelqu'un, elle a 80 ans maintenant, qui a une force tout à fait exceptionnelle et qui est, je crois, en connivence avec ce que nous essayons tous de faire ici. Alors, mon premier chapitre, ça va durer à peu près 25 minutes. Mon premier chapitre, je l'ai intitulé naturellement « Une saison en enfer ». Et ça commence par un cri hein, qui est Spero. Je pense que tout le monde ici est un peu latiniste. Spero, s'écrit-elle, deux notes qu'elle fait entendre tous les deux ou trois panneaux ou tableaux de guerre, de supplice, de cruauté, comme après un bombardement succède un silence incroyable, tout blanc, comme après le silence entre les 11 heures de la nuit de mort, on entend comme le chant du premier oiseau du matin, puis aussitôt le deuxième oiseau lui répond, on entend l'appel à deux notes. « Vis-tu ? » siffle l'un. « Spero, » répond l'autre. « Spero, j'espère. »« Vis-tu encore ? » ?»« Je crois, oui, j'espère. » Ce chant-là, à deux notes, c'est son cri à elle, celui qui s'appelle l'explosion initiale. D'abord le désastre, ensuite la pirouette de la survie. À la répétition cadencée, à la danse recommencée, on voit bien que Nancy Spero est de l'espèce des poètes. Poète en peinture, en poète, avec l'âme en loque des poètes, elle commence par la fin. C'est la fin du monde aujourd'hui. La violence et l'oubli piétinent la terre. 10 000 ans que Marduk a tué Tiamat, il l'a éventré, éviscéré, aplati, tanné, a transformé sa chair en fine pellicule de papier, a fait des abat-jour avec sa peau et du savon avec sa graisse, et ça continue. Le massacre de tout ce qui est femme sur le sol du monde, femme les poètes, femme les révolutionnaires, femme les rêveurs, femme le peuple vietnamien, sur lequel Hélicoptère, le dieu des ravages des Américains, chie ses bombes excréments, déverse ses coliques de spermes empoisonnés, 10 000 ans que ça dure, la fin du monde, femme les juifs, femme ses déportés, Hélicoptère passe les humains au hachoir de ses pales, ou swastika, aujourd'hui comme au temps de Marduk, sous la verse d'obus spermiques, de merde phallique, comment ne pas se dire, pense-t-elle, que tous ceux qui naissent sous le signe femme c'est-à-dire tous ceux qui sont pour les fleurs, pour le rire, pour la splendeur des levées du jour, pour les délices de la course à pied sur un sable grec, pour la jubilation bouleversante d'Archimède, les savants, les poètes, les enfants, les champions de la marche à la vie, sont condamnés au sort appelé par Spéro victimation, victimation. Ce qui les attend, les magnifiques, c'est la boucherie, la mise en pièces du corps, la décollation, le dépècement que connut déjà Osiris, le dieu né pour la mort, la dispersion des morceaux, ou bien, si vous préférez, l'exclusion, le bannissement sur place, l'ablation de la présence, la transformation instantanée en rien, la suspension d'être. Hélicoptère, ou la version forces armées américaines de Gérion, l'animal avion découvert par Dante, l'amphibie géant, l'anaconda à pattes, ailes, flancs, peints de nœuds et de rouelles, qui sert de gros porteur aux deux voyageurs du champ 17 de l'enfer. Voilà qu'El Spéro lève sa tête d'espérance, d'infime sauterelle humaine, et elle observe, sans ciller, les mœurs de l'infect cancrelat solaire. D'un saut puissant de l'imagination visionnaire, elle gagne le sommet de la scène en haut à droite de l'univers. De là, elle voit tout ce que les lâches humains ne veulent pas voir. Elle a le regard enflammé de Timon sur Athènes. Le monde vu du dragon hélicoptère est une flaque dans laquelle flottent les cadavres des insectes humains dont les massacres se répètent. Chez Spéro comme chez Dante, Artaud, Mandelstam, la vérité se manifeste en images d'une poésie terrifiante, celle qui hante les yeux des petits-enfants encore indomptés. C'est cet opéra des cauchemars où les serpents et les rats entrent par les trous dans les entrailles de l'âme, où papa est un loup sanguinaire, où nul n'ignore que l'histoire est cannibale. Elle dénude la guerre. Elle soulève les apparences sous le mot « désastre », sous le mot « terreur », qui nomme et classe les faits épouvantables. Voilà qu'elle aperçoit grouillés les mystères crus qui surpassent les forces de la description. Ce qui ne peut se dire en mots seul, elle le dit en images cri-couleur. On le sait depuis Bosch, le dessin est intrépide. Elle dessine l'ineffaçable. Spéro, l'illuminé de l'atroce, rejoint la maçonnerie des témoins du pire, le visionnaire de Guernica, le peintre martyr des désastres de la guerre. Elle est de la grande compagnie des pestiférés et des veilleurs, ceux qui voient. Ils savent, eux, que le cerveau mondial grouille d'engins de mort et que pour donner une chance à la survie, on doit survoler le vide sidéral d'une chaîne de semblables poétiques au corps d'anges hermaphrodites. Où qu'elle aille, en Europe, en haute antiquité, au Moyen-Âge, chez les païens ou les chrétiens, les phallodieux sont partout les mêmes, ça tue et ça piétine. À quoi bon être née, pense-t-elle, si j'avais su? Alors une énorme colère la prend, ses langues enflammées pénétrant sa poitrine embrasent son cœur, une colère plus grande qu'elle-même, et voici que son effroi et sa tristesse se tournent en forces énivrantes, et elle sent au moment même où elle se lamente, où elle se croit découragée, que ce cœur blessé ne mourra quand même pas, qu'il y a en elle une force plus forte et une lumière plus lumineuse que le néant et son cirque monstrueux, et tandis qu'elle chemine entre les cratères ouverts par les bombes, la tête environnée des bêtes baveuses de napalm et des nuées de sauterelles de l'apocalypse, tandis qu'elle longe les murailles des musées à la recherche d'une porte d'entrée, mais il n'y a pas de porte pour les gens de couleur, les petits-enfants, les peuples-femmes, il n'y a que des écriteaux d'interdits, tandis qu'elle court sous les noires défécations des régiments d'aigles, tandis que les gueules des bombes mâles beuglent, tu resteras toujours dehors. Qu'elle titube dans la poussière des empires, voici que du brasier d'horreur jaillit une joie nouvelle. Elle donne essor, essor c'est un tableau, hein. Elle donne essor à une personne merveilleuse et puissante qu'elle porte en elle, qu'elle est, et au moment où la colère en elle tire son cri strident, de ce cri rouge s'évade en volutes légères, comme de la bouillie noire des ouragans se dégage la courbe consolatrice de l'arc-en-ciel, la silhouette d'une personne, toujours vivante, qui survolera toujours la destruction, qui vit d'une vie où la mort ne triomphe pas, où la beauté ne peut périr. Certains, parfois, cette apparition, ce corps dont la courbe est adorable, mystérieusement adorable, adorable comme le mystère même de la grâce, il l'appelle Nout, car elle ressemble en effet, trait pour trait, à la déesse Nout, la déesse ciel, sous la coupole de laquelle les Égyptiens abriter leur rêve d'immortalité du temps d'avant l'histoire où ils avaient le secret du livre des morts, Nout ou l'espérance. J'imagine la joie de Spéro lorsqu'elle découvre un jour, je ne sais pas lequel, c'est son secret, un certain jour, l'image exacte, le dessin même de sa propre âme, et que, en un éclair de révélation, comme Proust recevant par la bouche le message d'immortalité caché dans une bouchée de madeleine trempée dans du thé, elle reconnaît la chose-forme qui est elle-même. J'imagine le cri qui s'élance de sa gorge. C'est un alléluia athlétique. Elle a sa vision. Sa vision s'écrit comme une note de musique au-delà de la portée, comme une demi-blanche divine. Oh, coupée en deux. Car c'est seulement quand nous les rencontrons que nous sommes près de cette exaltation qui fait que nos propres paroles nous enchantent et font dire aux autres « Oh, c'est beau !» murmure Proust. Désormais, toute l'œuvre immense en temps et en étendue de Nancy Spéro est conduite, escortée, enchantée par Nout la révélée, je veux dire la rêve ailée. Elle respire à plein poumon l'air de la grâce. J'allais mourir et je ne suis pas morte. Oh vie ! Tout retentit pendant ces 50 ans haletants de ce sentiment inquiet et exalté qui fait frémir les confessions de saint Augustin. Que confesse le saint ? Le vaste livre de mémoire a une clé. Il tient en trois mots. Sero, te, à ma vie. Trois mots dont le soupir, le souffle, est parfumé de toute la tristesse et toute la joie du monde mêlée. Sero, te, à ma vie. Je t'ai aimé trop tard, dit le saint. Voilà sa confession et son génie. À qui adresse-t-il cet aveu sublime et impensable ? À la beauté, pulchritudo. À Dieu aimé au féminin. Au féminin de sa beauté. À la beauté comme féminité de Dieu. Je t'ai aimé trop tard. Sero t'ai à ma vie. De ces trois mots s'élève pour toute la durée des temps humains la profession de foi la plus belle du monde, l'acte fondateur du mystère de l'amour. Beauté, je t'ai aimé, Sero. Trop tard. Trop tard. Mais quand même, pas trop tard. Car tandis que je ne t'aimais pas encore, ô beauté, tandis que je ne t'avais pas encore vue, toi, tu m'aimais déjà. Tu me sauvais, tu m'as sauvé, tu m'as trouvé avant que je ne t'aie trouvé. Tu m'attendais, tu m'espérais. Spéro, j'espère. Pensait la beauté. Cependant, au sein, il manquait une lettre. Seulement une lettre. Sero, Spéro, il y avait un retard. Il y a toujours un retard. Tu étais avec moi, et moi, je n'étais pas avec toi. Ce que je viens de rappeler, cette formule de la douleur irréparable et réparable, ce retard qui ne va pas tarder à se retourner et s'ouvrir sur la grâce, c'est l'histoire de la beauté, c'est l'histoire de l'œuvre d'art, c'est l'histoire de l'œuvre de Spéro. Je reprends. Au commencement est Sero. Au commencement, tout était noir. Les peintures qui me venaient, dit Spéro, noircissaient à vue d'elle, à vue d'œil, se souvient-elle. En ce temps-là, les mots qui viennent sont menés par « non ». Le « non » de Nancy, « non ». Nancy, « non si », dans toutes les langues, « no, nine ». C'est le nom de l'artiste rebelle. « Non pour non, dent pour dent ». Le nom de Stephen Dedalus, « I shall not serve ». Je ne plierai pas. Je ne prierai pas, je crierai « I do not challenge ». Le nom de Ingeborg Bachmann au père cauchemar dans Malina. En ce temps-là, elle, Spéro, est sans visage, sans visa, sans passeport, inadmissible. Ce que les hommes font aux hommes, c'est à hurler. Ce que les hommes font aux femmes, c'est l'enfer. Font ? Que dis-je ? Défont ! Défonce ! Voilà pourquoi elle commence à peindre, pour crier « I do not ». Il fallait crier, non pas pour se faire entendre, mais pour s'entendre soi-même. Elle crie en peinture. Elle crie peint. Signe les cris en peinture. Les explosions, les coups, les morts, les prisons, elle les crie. Voyez cet extraordinaire manifeste de la rébellion Spéro, intitulé « Homage to New York ». Elle le crie en 1958. Je l'adore. Il me fait tordre de rire. C'est le premier de ses autoportraits. Autoportrait de Nancy et Spéro, en deux clowns, qui pose aux côtés du monument tumescent aux abstraits, lequel est dressé sous forme de phallus tombal, langue de pierre flanquée des deux langues bien vivantes et tirée vers le bas de Spéro et Nancy. Coup de génie, on se croirait dans une version expressionniste abstraite du songe d'une nuit d'été déconstruite. L'âne n'est pas celui qu'on croit. Des abstraits, il ne reste plus que des initiales illisibles. On a Dieu que pour les deux délicieux clowns, Spéro et Nancy, les mauvais élèves en bonnet d'âne, les mutants farceurs, pitres sortis vivants d'une comédie nécropolitique. Pas de provocation, dit la chose animée par le couple. I do not challenge. Tous ces phallus pierreux, ces index qui font la figue, ces consonnes creuses, je ne les défie pas. Prétérition, mais aussi pied de nez, langage des signes. Conjuration au double sens du mot, c'est-à-dire évocation et exorcisme. Chicago contre New York, c'est la guerre de Troie. Tiamat tire la langue à Marduk, l'art figuratif se fout de l'abstraction. Nancy et Spéro ne relèvent pas le défi, ils singent, ils hèlent, la prétention pierreuse les ériger. Ils ne défient pas, elles se défilent. Elles se méfient du défi. Ce qu'elles proposent est un tout autre défi, un défi alternatif, une défigure de la tombe en tang, une liquidation de la pierre, un mock homage à la Lewis Carroll. Au lieu du sec, l'humide, au lieu de l'inventaire capitalistique, du chiffre avare de la gloire, deux clowns cancres, ostensiblement clandestins. Un manifeste en forme d'adieu. C'est comment, au moment même où Spéro ouvre les yeux, les expressionnistes abstraits sont au pouvoir. C'est toute une histoire de l'art moderne qui se dresse devant elle et fait la loi. Elle ne supporte pas la dilution de la cruauté dans l'abstraction. Comme on le sait, elle n'est pas seule à vouloir foutre le mur du musée en l'air, pas seule à dire merde à l'histoire de l'art. Spéro, le clown à cheval sur le dos de Phalélicoptère, a un très puissant et très fou guide aux enfers. Il s'agit du foudroyant Artaud le Momo, le prédécesseur martyr, le cracheur du fameux texte d'avril 1947 que je cite. 10 ans que le langage est parti, qu'il est entré à la place, ce tonnerre atmosphérique, cette foudre, devant la pressuration aristocratique des êtres, de tous les êtres nobles, du cul, con, de la pine. 10 ans en 1958, Carto a crié « 10 ans que le langage est parti ». Et voilà que la lettre du fou, maintenue en asile d'aliénés pour passe d'exorcisme, lui arrive à Spéro, juste à point pour tirer la vérité de la tombe. Que lui aura légué Artaud ? Premièrement, la paradoxie de la lettre. Langage est parti, restent les lettres. Coup de génie, les codex Artaud, de Spéro, procèdent à une révolution grammatique. Il s'agit de ressusciter le mot mort, de réécrire Artaud, de le relever en le réensemençant avec ses propres lettres. Lettre mourante, lettre se rapprochant de la mort, squelette, lettre morte, reste. Les codex, c'est le devenir des saints des lettres du nom d'Artaud. Spéro, opère, S-P-O-R-E, spore, on décompose le nom et on refait le monde par paronomase du nom de monde, de nom à monde. Elle aura inventé la beauté extraordinaire de la lettre corps, du corps de la lettre, du corps à la lettre, du corps littéralisé en pi, en pi, en e, en pied. Nous sommes des lettres en souffrance. Nous sommes écrits. Par la magie du mixage du pictural et du littéral, elle fait surgir dans la lettre le dessin. Il faut pousser la lettre comme un cri muet, par réitération, jusqu'à la géométrie. On revient à l'origine du texte comme tapis. Retrouver le décimal, la décinalité que l'Orient connaît, alors que l'Occident n'a pas de vision de tradition calligraphique. Spéro est réponse à la plainte d'Artaud déposée en ces termes et qu'elle reproduit. Seulement de septembre 1937 à aujourd'hui, il m'est arrivé que j'ai été arrêté, mis en prison à Dublin, déporté en France, interné au Havre, transféré du Havre à Rouen, de Rouen à Sainte-Anne à Paris, de Sainte-Anne à Villévrard, de Villévrard à Chézal-Benoît et de Chézal-Benoît à Rodez. Toutes mes affaires m'ont été prises par la police et tous mes papiers ont été perdus, Artaud. Et qu'elle enregistre la plainte. Ainsi, tout est perdu, sauf la plainte. Ainsi, tous les papiers perdus reviennent, fantômes, hôtes, recueillis et rejoués, et de même, tous les morceaux perdus de corps sont recollés sur l'espace papier sphérique. S fait son travail d'Isis new-yorkaise. Elle ramasse artaud, les débris et les déchets artaud, et en refait des spéroglyphes. Comme si elle était elle, SP, un PS d'artaud. Son post-scriptum, son après-coup. Artaud, pas trop tôt, marteau d'artaud, tard, tarot. I couldn't have borne to know you alive your despair. Signé Spero. Ces spéroglyphes, c'est la langue perdue d'Artaud qu'elle aura retrouvée et greffée sur son rouleau sacré. Deuxièmement, le Momo lui aura donné l'exemple, la force, le courage, l'urgence de causer un scandale en peinture. L'art, non, on ne va pas les laisser lui confisquer la pensée. L'art, ça ne veut pas rien dire. Sa voix, ça n'entre qu'en lutte. Ça veut dire, ça veut dire. Ça ne veut pas dire seulement, comme l'idiome nous conduit à l'entendre, ça signifie, c'est traductible. Ça veut dire veut. Il y a à dire. Spero attend à nous dire, bien décidée qu'elle est à porter des coups au destinataire. Ses lettres dessins s'adressent, harangue, apostrophe violemment les passants. Spero veut se délivrer du spectre US qui vient paralyser le corps mondial, mais elle veut aussi, à coups de dessin, nous ébranler, nous tirer de notre somnolence. Spero est une combattante. Elle attaque le sommeil de la conscience, mais aussi les supports, la stabilité, l'art au musée des mecs, l'état statique, stagnant de l'œuvre d'art. D'ailleurs, pas de support. Il faut lâcher les créatures sous le vaste ciel, délivrer les Prométhées, lâcher le dessin, qu'ils prennent l'air ou l'eau. Les illuminations, tant pour les femmes. Si l'enfer est une dénonciation de la marche funeste de l'homme, le paradis est une célébration du vol de la femme. Vous détruisez le monde ? Il faut que je lance les survivantes dans les hauteurs. Qui m'empêchera d'inventer un autre monde, un autre corps ? Les femmes, des phalanges ornithologiques, ces ensembles de voyageuses exubérantes sont l'expression de l'instinct d'insurrection. Après les hélicoptères, les nageuses célestes détachées. En bas, au supplice, elles étaient attachées, ligotées, entravées, livrées, sacrifiées, femmes otages des sadismes. Dans cet autre temps, sous ce nom de femmes, c'est une foule de fées qui refait une autre histoire. Et l'air de rien, elles sont les reines de l'air. Les femmes spéroïques sont comme les vers de la Divine Comédie. Elles s'élancent, s'éloignent de la terreur, ne se posent pas, ne se reposent pas, s'échappent, mais se répondent, sont seules, mais se relayent comme de puissantes notes de musique. Si fortes, championnes de course, stars solitaires, déesses survivantes, passeuses d'abîmes. À leur beauté, à leur air de victoire, à leurs bras levés en ailes, à leurs pas pressés de danser, je devine qu'elles sont les filles du rêve de liberté d'une être que la vieille histoire a jeté dans les invisibles prisons. Elles sont les émanations d'une âme indignée. De la matière de l'enfer, elles tirent d'invincibles fiertés. Laissons courir les fils après le père, comme dirait Derrida, disent-elles, qu'ils emboîtent le pas du Seigneur, capital, coupeur de tête. Nous, nous allons jouer les filles de l'air. Nous nous tirons avec nos langues. Et, rompant d'un bond avec la vieille logique qui soumet la parole pensée à la maison au père et fils, elles filent par bond vigoureux dans l'espace vierge. Où nous mènent leurs vols acrobates, à la profondeur sans bord, sans fond, sans âge, où à force de voltiger et de solliciter les temps perdus et les temps retrouvés, à force de conjurer les millénaires passés et les millénaires futurs, à force de prophétiser la fin de la terreur et la naissance d'un nouveau corps, elles réussissent à halluciner le retour de la bonne déesse, Nout, la ciel, qui nous avait quittés jadis et oubliés sous la terre. Une merveilleuse apesanteur succède à l'air pilonné par les bombes. La beauté revient d'exil. Vénus, à laquelle on ne croyait plus, vient renaître, toute neuve. L'âge des dissidences a commencé. Des liées absolues, venant de tous les pays, espiègles. Qu'elles sont délicieuses et drôles, ces corps qui ne se laissent plus contrarier. Ces corps qui ne se soumettent plus à l'opposition, à l'attribution, à l'interdiction, à l'exclusion-inclusion. Et si j'ai envie d'un bouquet de pénis, disent-ils, elles, ces corps absous de l'opposition sexuelle, j'en cueille un. Si j'en veux plus d'un, qui m'empêchera d'en jouir à volonté ? Plus on a de seins, plus on nourrit. Plus on est de fous, plus on rit. D'autres, je l'imagine, appelleraient cette pluralisation du fétichisme. Moi, je crois que les héroïnes joyeuses de Spero sont plutôt des je m'en fichistes, des locataires de l'inconscient, dont nous savons qu'il ne connaît pas le nom et qui cultive la greffe et les suppléments. Voilà pourquoi nous reconnaissons, avec une exclamation de plaisir, l'élégante revenante aux organes délicats, polysexués, comme les fruits de l'arbre du bien et du mal. Nous l'avions vu en rêve, cet être au cou de cygne de Léda, aux petits seins triangulaires, alignés comme des dessins d'enfants, aux longues pattes fines de Joséphine Baker, chaussées ou peut-être coiffées de talons aiguilles, et à la minceur de guerrière pleine de grâce, et qui ne pose pas, qui bouge tout le temps, qui bouge le temps, le fait tendre de rire, et pourtant, que l'on se glisse au fond de l'âme, dans l'atelier. Spero est une femme ténue, qui ne sait pas trop comment se tenir, qui parle avec une inquiétude sincère, se racle la gorge, se dresse en ombre légère derrière les corps radieux de ses créatures. Une filiforme de Giacometti, ce qui confère à ses personnages éclatantes de vitalité un infinissime tremblement, comme si ces figures aéronautiques sentaient sous leurs ailes, sous leurs bonds, que leur auteur est, au secret, une femme fragile, qui porte les traces des tortures d'un autre temps, femme poursuivie, traquée, chancelante. C'est cette maladresse surmontée qui donne aux créatures le charme étrange qui adoucit l'excès du triomphe. Tous ces êtres appartiennent à la compagnie secrète du « c'est trop beau » pour être vrai. Elles ont le pouvoir troublant de Marlène Dietrich, le pouvoir du masque de l'hyperféminité, comme si, ayant été autrefois incertaine d'être femme, convenable, convenue, femme programmée féminine pour le service du phallus, elles en remettaient aujourd'hui. Elles se moquent du désir qu'elles suscitent, comme le font les divas, ces grandes mezzo-soprano énigmatiques, dorées, dont les voix hermaphrodites sont logées sous les cuirasses de Tancrède et les cris des costumes d'opéra. Qui songent, nous demandent-elles, ces divines comédiennes, qui hantent les plafonds des installations ou les longues frises murales de la station de métro 66 à New York. Tantôt enveloppées dans les plis dorés d'une cape de mosaïque, tantôt emportées dans un numéro de cirque éblouissant, au théâtre de la féminité, comme dans le chef-d'œuvre nommé plaisamment Première. On retrouve dans Première l'esprit clown de l'hommage en 1993 comme en 1958. Le petit démon mercuriel de la gémilité bisexuelle fait des siennes. Première est un cas hilarant d'homonymie transposée en image. C'est une machine fantasmatique. Une femme est aussi une autre femme. Une femme est plus d'une femme et un peu mec aussi. Première est un titre. C'est le nom propre d'une installation qui batifole sur les murs d'un théâtre viennois. C'est le nom de la première représentation d'un spectacle. C'est un mot français en anglais. C'est la désignation de la personne qui vient en tête d'une énumération. Qui ici pourra affirmer être la première ? Première est toujours en train de reprendre la tête des événements. Première sort de la chronologie en dansant. La dernière est aussi la première. Première est toujours en premier, quelle que soit sa place dans la syntaxe qui voltige en tous sens. Chaque femme vient d'une autre femme. Chaque femme est la première de son espèce. C'est une version féerique de l'œuf et la poule. Chaque une devance, double, rappelle, relance, suit chaque une. Une femme est un ensemble de femmes, chaque fois unique et chaque fois la même qui revient avec une différence, avec la différence d'un aujourd'hui. Première est un numéro de jongleuse volante, un manège généalogique. Les femmes, toujours plus d'une, se balancent en dansant d'une incarnation à l'autre. Première est l'après-midi d'une faunesse, Avatar Dance. Une danseuse est découpée en silhouette aboriginale et lancée vers l'est, tandis qu'au même instant, égyptienne, sirène, elle plonge en levant les mêmes bras qui s'ouvrent dans l'essor provoquant d'une mistinguette en long gant noir. Ce numéro est exécuté sans sol, dans l'imagination de la rêveuse, qui pour l'occasion a pris l'apparence d'Yvette Guilbert, du moins ce qu'il reste du personnage, jadis éternisé par Toulouse-Lautrec. Le music hall Spero et la version fantaisie, mais d'une érudition malarméenne, du théâtre de la cruauté. Tout se passe comme en onirie, ou bien comme dirait Shakespeare en Illyrie, avec les effets de vérité dont le rêve est le commandant. Ces cortèges d'anges musiciens, ces parades de girls vulviques, ces bandes de bacchantes prométhéennes, ces chapardeuses de feu, ces mélanges drôlatiques d'Ulysse et de Sirène, qui filent à toute allure le long d'un rouleau de bande dessinée, avec sous le bras le pénis piqué à quelque phallocrate borgne ensommeillé, tous ces personnages illustrent, envers et contre tous les clichés du siècle, qui s'emploient à vendre de l'image de la femme comme passivité, etc., 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 la vertu de vie de celle qui est toujours la première à rire et à courir dans toutes les circonstances. Elle ne court après personne. Elle est la course même. Que fait-elle ? She songs. Elle substitue au sort du sort l'essor qu'elle est. La première est polyglotte. Si une langue l'enferme, elle sort par l'autre. Elle joue des pieds, des mains, de la condensation, de la substitution, de la propagation, du remplacement. Elle est en continuelle citation. Elle est comme la citation de Dante que cite Mandelstam. La spérocitation n'est pas un emprunt, n'est pas un rapatriement des représentations de la femme, n'est pas une revendication de propriété, c'est une cigale, une sauterelle, une espérance. Agrippée à l'air, elle ne lâche plus prise. Elle grimpe, par ascension incoercible, récite, excite, ressuscite, encore. C'est ainsi qu'à force de citer, de surexciter, elle aura suscité la ciel, où désormais se multiplient ses peuples, la ciel, si elle. C'est sous le ciel, ceiling, tendu comme un tendre bouclier, comme une soie pour ses révolutions, que je vois filer, à pas presser, l'autoportrait de l'artiste, le plus émouvant, le plus secret, le plus dissident. Il s'agit de cette vieille, vietnamienne, bouleversante de vérité, que la vitesse et la brièveté de la vie multiplient. La vietnamienne est son double mental. La vietnamienne est une vieille femme et une femme toujours jeune, et l'âme du Vietnam, et la jeune vieille femme éternelle, et le principe de vitalité. En rêve, Spero se voit courir à toutes jambes. Elle est jeune vieille, vietnamaricaine, elle fume, elle accélère, sourcils froncés, elle avance. Portrait de l'avance. Une avance sur la vie ou sur la mort. Elle va, vieille jeune cigale qui grésille, sp, 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 aspire, espère.